Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 mars et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission autour de l'actualité en Mayenne, accompagnée comme chaque jour d'Andy. Salut Andy.
Salut Marie, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Oui, ça va nickel.
Pour cette nouvelle émission où on va parler justement des habitants de Saint-Nicolas qui ont participé à un film, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est un projet mené par la Grande Surface, le centre de création artistique de Saint-Nicolas du coup. Et le film s'appelle Belleville-les-Bains.
Et on va en savoir un petit peu plus d'ici quelques minutes. On va aussi parler du Team Peace Festival qui va avoir lieu d'ici 3 semaines à Argentrée. On reçoit l'un de ses organisateurs, ce sera notre interview à venir. Et puis aussi, on va retrouver la chronique de Swazik qui va nous parler, et c'est d'actualité là aussi, des conseillers en tout cas du président de la République et notamment du cabinet McKinsey. On va comme d'habitude élargir le sujet, ça ce sera en fin d'émission. Mais d'abord, on va faire un point sur l'actualité avec toi Andy, avec aussi la Covid qui continue d'accélérer en Mayenne.
Et oui, selon les chiffres de l'ARS, la Mayenne reste le mauvais élève de la région. Son taux d'incidence était hier de 1459 nouveaux cas pour 100 000 habitants contre 1284 vendredi. 59 patients sont actuellement hospitalisés, dont 4 en réanimation.
Et puis un autre virus qui inquiète, celui de la grippe aviaire.
Avec 10 millions de volailles abattues depuis 5 mois et près de la moitié en Pays de la Loire, les agriculteurs sont de plus en plus inquiets. Le département de la Mayenne a connu seulement 2 cas pour le moment à Ballot et à Saint-Martin-du-Limay. Des dispositions ont été mises en place par les agriculteurs pour limiter le plus possible la propagation du virus, comme des sas sanitaires ou des tenues spécifiques pour entrer dans les élevages.
L'eurodéputé Valérie Ayer sera au relais de la campagne d'Emmanuel Macron.
L'élu d'origine mayennaise aura comme rôle de faire le lien entre le candidat et une thématique. Celle de Valérie Ayer sera sur les questions européennes. Elle déclare être particulièrement fière de la confiance que lui accorde Emmanuel Macron, le candidat le plus pro-européen de cette présidentielle. Selon elle, l'Europe est la bonne échelle pour répondre aux questions de demain.
L'étrogne mise en lumière à la médiathèque de Château-Gontier.
Par une conférence jeudi à 20h intitulée « Biodiversité et trogne en Mayenne », animée par Dominique Mention, spécialiste de l'histoire des usages et du devenir de ces arbres paysans, gratuit et ouvert à tous.
Une journée job dating à l'espace Mayenne à Laval.
Avec près de 130 entreprises et 30 organismes de formation qui proposent plus de 800 offres, c'est l'occasion parfaite pour les personnes en recherche d'emploi ou d'alternance. Vous avez jusqu'à 17h pour vous y rendre.
Nocturne aux archives, rendre justice en Mayenne.
C'est la première fois que les archives départementales participent aux Nocturnes de l'Histoire. Le temps d'une soirée, vous aurez accès à certains documents originaux d'affaires criminelles de l'Ancien Régime. Elle aura lieu ce soir de 17h à 21h aux archives départementales de la Mayenne, 6 places des archives à Laval.
Le centre de création artistique La Grande Surface sort son film.
Après 2 ans et demi de travail, le film qui se nomme Belleville-les-Bains, avec comme acteurs les habitants du quartier Saint-Nicolas, sera projeté pour la première fois en public en fin de semaine. Il s'inscrit dans le contrat local de projet artistique de la ville de Laval. Laurent Ménez, coordinateur de La Grande Surface, et Virginie Fouchot, la metteuse en scène du film, nous expliquent comment s'est déroulé le tournage.
Alors le tournage, il s'est déroulé sur plusieurs mois et entrecoupé de périodes de confinement. Il y a une cinquantaine de participants sur le spectacle, sur le film. Il n'y a pas du tout d'acteurs professionnels. Alors en fait, il y a un groupe d'acteurs qui s'est constitué depuis plusieurs années, justement, qui ont joué déjà dans d'autres projets que nous menons avec La Grande Surface dans le quartier à Saint-Nicolas. Toute personne qui souhaitait participer à ce projet pouvait participer à ce projet. Et en fait, finalement, nous, on fait l'inverse sur ces projets-là, c'est-à-dire que d'habitude, on décide d'un scénario, d'un film et d'un projet, on choisit des acteurs pour ça. Et là, j'ai envie de dire qu'on fabrique un film et un projet en fonction des acteurs qui sont présents. L'essentiel, c'est vraiment le lien avec ces acteurs depuis un certain nombre d'années, quels que soient les projets. Alors effectivement, il y a le noyau dur dont je parlais, là, qui avait déjà l'expérience du projet Cendrillon qui avait été joué au Théâtre de Laval, mais qui avait une expérience du coup théâtrale. Et du coup, il a fallu découvrir le jeu, mais on l'a découvert ensemble finalement, le jeu cinématographique qui demande beaucoup plus de sobriété, de précision, d'intériorité, etc. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus et ils sont assez étonnants.
Les personnes qu'on voit à l'écran ne sont pas professionnelles. En revanche, toute l'équipe technique... c'est nous en fait, donc qui sommes voilà metteurs en scène, comédiens. On a fait appel aussi à des compétences là de film parce que à la grande surface, on est surtout nous sur des arts vivants en fait. Et donc il y a deux personnes qui sont vraiment dans le cinéma qui nous ont rejoints. L'histoire se passe dans une ville de bord de mer qui ressemble étrangement au quartier Saint-Nicolas à Laval, sauf qu'à la place de la route de Tours, pour ceux qui connaissent ce quartier, c'est la mer qui est là. Voilà. Et dans cette ville, il y a un gros projet immobilier de transformer l'ensemble là, des bâtiments de la ville en station balnéaire de luxe. Voilà. Donc l'idée, c'est de virer tous les habitants qui habitent dans ce quartier, ville de Port-de-Mer, et pour raser les tours, etc., et en faire autre chose. Et évidemment, donc il y a plein de choses qui sont mises en place par le promoteur véreux là, pour déloger les habitants. De plus en plus, les tours se vident. Il y a même une tour où il n'y a plus qu'une personne qui reste. Mais par contre, elle veut vraiment rester, Anna Presgurvic, en haut de sa tour. Et puis petit à petit, autour justement de ce personnage, il y a des habitants qui disent non, quoi, et qui cherchent à résister et à contrer ce projet. Voilà, c'est le pitch, on va dire, du film. Comment ça finit? Alors, ça, on ne sait pas.
Et pour savoir si le promoteur immobilier va réussir à faire partir les habitants de la ville, plusieurs solutions s'offrent à vous. La première, ce sera vendredi à 19h et à 21h à la Grande Surface. La deuxième, le mardi 19 avril à 14h et à 16h au musée du Vieux Château. Et enfin, le 11 juin vers 22h sera organisée une projection nocturne en plein air, une nouvelle fois à la Grande Surface. Et tout de suite, l'interview du jour avec aujourd'hui Gaëtan Biel pour le Team Peace Festival. Et juste avant, on écoute La Thune de Angèle.
Tout le monde il veut seulement la thune, et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la fame, et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre, photo sur Insta c'est obligé. Sinon au fond à quoi ça sert, si c'est même pas pour leur montrer. Et puis à quoi bon, t'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Oh, je devrais m'éloigner, loin du game, loin du danger. Mais j'avoue, j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va parler, ou j'oublie tout et je m'en vais. Yeah, moi je m'en vais marcher, naïve comme jamais, loin des regards armés. À quoi bon, t'es tellement seule. À ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Et puis à quoi bon, t'es tellement seul avec ton argent. Tu sais même pas pourquoi t'es tout le temps avec des miches sans sentiment. Au fond j'avoue que même moi, je fais partie de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait bander.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Et puis à quoi bon, t'es tellement seul derrière ton écran.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tu penses à ce que vont penser les gens.
Thank you.
c'était Angèle Latune dans la JT du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio et on va rester dans la musique avec la deuxième édition du Team Peace Festival. C'est notre sujet du jour avec notre invité du jour aussi, Gaëtan Biel, membre organisateur justement du festival. Bonjour.
Bonjour.
Alors justement, c'est cette deuxième édition du festival, un tout jeune festival qui, donc, je le disais, connaît ça organise sa deuxième édition seulement cette année à cause de la crise sanitaire, on s'en doute, avec une première édition en 2019. Et on va remonter un tout petit peu avant encore sur vraiment qu'est-ce qui a été à la création vraiment de ce festival et quelle envie en tout cas était à l'origine, quelle était cette idée.
Alors, l'origine du festival, c'est un groupe d'amis hein, sur Laval, sur la Mayenne, dont certains musiciens d'un groupe de musique mayennais qui s'appelle le Collectif Team Peace, un groupe de reggae. Pour la sortie de leur premier EP, ils ont voulu faire une soirée spéciale avec un concert. Est venue l'idée d'inviter d'autres artistes éventuellement. Et de là, pourquoi pas en inviter plusieurs. Et donc ça s'est transformé en festival, même si cette première édition s'est déroulée sur une seule soirée. Donc c'est pas du tout le même format que cette année. Et donc la soirée s'est très bien passée. C'était à la Grange de l'Orbière à Forcé. Voilà, une belle réussite, des bons retours des festivaliers. Donc ça nous a donné, ça nous a motivé à poursuivre l'aventure. Et donc on a voulu repartir dès l'année suivante en 2020. Malheureusement, c'était une semaine, un mois après l'annonce du premier confinement. Donc on a annulé et on a attendu maintenant 2022 pour se relancer.
Pour la se relancer et bien se relancer, puisque on le disait, vous avez vraiment franchi encore une autre étape, puisque sur la première édition, il y a eu 400 personnes, je crois, c'est
ça ? Oui, c'est ça. Donc on était un peu aussi limité par la jauge, hein, par l'espace qui nous a accueillis la première année. Même si c'était parfait hein, pour se roder. Là, pour la deuxième édition, du fait de nos contacts, on a eu des échanges avec la mairie d'Argentré, qui a accepté, qui nous a proposé de nous accueillir dans leur nouvelle salle qui s'appelle l'Escapade, qui est une salle de spectacle, hein, qui est dédiée au spectacle. Et compte tenu du lieu, hein, qui est plus important, c'est qu'on a une jauge de 1000 personnes. On s'est dit qu'il fallait peut-être essayer de faire un événement un peu plus conséquent. Et donc c'est pour ça qu'on est parti sur un format sur 2 jours. C'est aussi pour mutualiser tous les efforts qu'on met pour l'organisation, la logistique. Même si la logistique sera plus simple sur ce site que sur le premier, c'est aussi ce qui nous a poussé à changer d'ailleurs. Et puis la mairie nous accueille à bras ouverts, ils nous mettent beaucoup de services et de matériel à disposition. Donc on est très heureux d'être à Argentré cette année.
Donc cette année pour 2 jours, vous le disiez. En termes d'organisation justement, j'imagine qu'il y a aussi toute une équipe de bénévoles derrière. Il y a aussi les services de la mairie qui vous aident. Comment est-ce que ça se passe tout simplement ?
Alors on est dans l'équipe organisatrice, on est une petite dizaine de personnes. Pour les bénévoles, alors d'ailleurs, on cherche toujours des bénévoles. C'est le moment de passer un message. Voilà, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, vous trouverez des messages concernant l'appel à bénévolat et l'adresse mail sur laquelle nous contacter. On va avoir entre 40 et 70 bénévoles le soir pendant tout le week-end. Voilà, donc c'est vrai que ça reste une équipe assez importante qu'il va falloir gérer. Mais bon, on a de l'expérience et des compétences un petit peu dans l'équipe qu'on a déjà pu gérer, pas forcément dans des festivals de musique, mais sur d'autres types d'événements. Donc on n'est pas trop inquiet.
Voilà, maintenant c'est juste avoir d'autres bonnes volontés. Ça peut être pour faire quelle mission par exemple pour
qu'on se représente. C'est les missions classiques. Hein, on va avoir des gens qui vont, alors peut-être les moins, au camping, parce qu'il y aura un camping cette année, à la billetterie, à l'accueil, à la prévention, à la restauration, au bar. Pour la zone artiste, pardon, sur le plateau, donc pour aider aussi sur la partie technique. Et puis, si j'oublie rien, la brigade verte aussi qui va s'occuper de nettoyer le site tout du long. Et voilà, je pense avoir fait le tour.
Au niveau du site, justement, donc vous parlez de cette salle, l'Escapade à Argentré. Est-ce que tout va vraiment se passer à l'intérieur ou il y aura aussi d'autres animations autour ?
Alors oui, donc le site de l'Escapade, il y a une salle principale, il y a une cour extérieure qu'on va exploiter. On va y retrouver notamment les food trucks qui vont proposer des plats aux festivaliers. Donc il y en aura deux. Authentic Burger et Imhotep, pour ne pas les citer, donc qui cuisinent essentiellement des produits locaux et en partie bio. Ça, c'était un souhait de l'équipe. On va retrouver tout un espace de restauration couvert aussi, une buvette à l'extérieur, et on aura une artiste qui va venir présenter ses peintures. C'est une expo ambulante, elle va faire le tour de la France avec sa caravane, et donc elle sera présente sur le site. Et la cour sera aussi exploitée le samedi après-midi à l'extérieur, où on organise un tournoi de palais, donc pareil, inscription sur les réseaux sociaux, on cherche encore des joueurs, et il y aura un DJ, donc la buvette sera ouverte toute la journée, ça sera gratuit, accès libre, et il y aura un DJ set avec Frankie Boost toute l'après-midi pour ceux qui sont de passage, et évidemment ceux qui veulent rester le soir pour les concerts. Ils sont les bienvenus.
Ils sont les bienvenus, forcément, j'imagine. Donc, il y a aussi cette partie gratuite, mais c'est vrai que le cœur du festival, bien sûr, c'est les deux soirées des 22 et 23 avril. Là, donc, vous l'avez dit, en 2019, on est parti du collectif Team Peace qui voulait faire son concert, puis qui a invité les amis, si je caricature, c'est pas ça, mais on est un petit peu sur cette optique-là. Là, il y a une douzaine d'artistes. Comment est-ce que vous avez élargi, justement, quels choix ont été faits au niveau de la programmation ?
Alors on a dans l'équipe un programmateur qui s'appelle Antoine Huro, qui a une structure aussi de booking de groupe qui s'appelle Huro Booking, peut-être que certains connaissent. Donc ça a été son rôle de nous proposer des artistes. C'est lui qui avait, bien sûr, qu'on a validé ensemble avec toute l'équipe. Donc voilà, la programmation s'est construite aussi par le biais des artistes que Antoine nous a proposés. Donc on a 12 artistes sur les deux soirs, je dis pas de bêtises, 11 pour être précis, parce qu'il y en a 5 chaque soir plus le DJ le samedi. Et on va osciller dans beaucoup de styles différents, on va avoir du reggae, du hip-hop, du rock, du folk, de la chanson française, de la world music un peu latino et de l'électro.
Ah oui, donc vraiment très large. Voilà. L'idée, c'est que chacun puisse au moins avoir plusieurs groupes qui lui plaisent.
C'est ça.
En fonction de ses goûts. Si on parle des noms, peut-être qui parlent un peu plus justement à nos auditeurs, qui sont peut-être un petit peu plus connus, notamment en tête d'affiche le vendredi, il y aura Erkan. Est-ce qu'on peut dire un petit peu quelle ambiance, à quoi s'attendre sur scène avec cet artiste ?
Alors Erkan, c'est un artiste qui vient de Perpignan. Qui définit sa musique comme du hip-hop populaire, donc c'est un hip-hop très accessible, avec un son très sympa derrière, un petit peu Java, il me semble qu'il y a de l'accordéon, il y a du clavier, voilà, c'est du hip-hop très, très sympa à écouter et à voir sur scène, un show qui s'annonce sympa. Ils viennent spécialement de Perpignan. À ce que je sache, ils n'ont pas d'autres dates dans l'Ouest, donc ils vont faire l'aller-retour spécialement pour le festival.
Ah, donc c'est l'occasion d'aller les voir aussi.
Oui, en effet. Si on apprécie. Donc il a fait la première partie de Trois Cafés Gourmands, entre autres. J'ai pas toute sa bio sous les yeux, mais voilà, c'est un artiste qui est assez connu dans le milieu du rap, notamment. En notre tête d'affiche, donc le samedi, on va avoir Ryan, qui est vraiment le groupe montant sur la scène reggae française. On entend de plus en plus parler d'eux, ils ont fait des featuring avec Naman, avec Generation, qui sont des groupes pour le coup plus pas confirmés sur la scène, avec HK plus récemment. Donc là ils sont en tournée pour le coup, mais c'est la seule date de ce que j'ai en tête dans l'Ouest, en tout cas dans la région.
Et donc vraiment l'occasion là aussi d'en profiter pour Ryan, qu'on entendra tout à l'heure justement en featuring avec Naman, vous en parliez. Et il y a aussi MB14, alors est-ce qu'on prononce comme ça ? Parce que,
oui, prononce bien comme ça. Alors c'est vrai que là, si on regarde la programmation, le samedi, ça va sonner plutôt reggae quand même. Reggae World, mais MB14, on l'a programmé le samedi parce qu'il est déjà programmé sur d'autres festivals reggae. C'est un artiste qui fait du human beatbox, donc il fait toutes les voix, tous les instruments avec sa voix, il loupe et il chante par-dessus. Il a été champion du monde de beatbox en 2018 notamment, champion de France en 2016. Il s'est fait remarquer un petit peu ces dernières années parce qu'il a participé deux fois à l'émission The Voice où il est allé en finale. Dernièrement à The Voice All Star. Alors c'est pas pour ça qu'on l'a programmé, parce que ce qu'il a pu montrer à ses émissions, c'est c'est quand même différent de ce qu'il va proposer
de la, sur scène,
sur scène oui. Mais ça montre la capacité de la voix de l'artiste. Quoi.
Et puis là, on va pouvoir le voir, j'imagine, plus longtemps que lors de courtes interventions.
C'est ça. Et là, il sort, en plus, il sort un film, donc ça nous aide bien. Il, sort un, il a un premier rôle dans un film qui sort le 4 mai, là, Le Ténor.
Pour donc voir très la bande visible annonce. Aussi.
Oui, ça c'est une bonne nouvelle pour nous.
Donc avant de voir le film, vous pourrez le voir oui. à Argentré le 23 avril, c'est ça. Effectivement, dans cette programmation aussi, donc on va pas pouvoir tous les citer, oui. mais il y a aussi des groupes locaux. C'était aussi, ça faisait partie, j'imagine, de l'équilibre à trouver dans la programmation.
Oui, alors c'est un des objectifs hein, de l'association et du festival, c'est de promouvoir des groupes locaux, régionaux, donc les départements voisins. Donc et de mixer avec des artistes nationaux. Donc on va retrouver les Lavallois de Maine qui font du rock, les Mayennais Rennais de Talam qui font de la folk, le groupe reggae Mayennais du collectif Timpis et Mali qui vient du 49, Selecta Initi du 49 aussi, Cocorico Lavallois, voilà. Vincent Prémel de Rennes je crois.
D'accord, donc là, ouais. là pour le coup, on a
on
peu
les a
près,
tous cités.
à peu près voilà. fait le tour. Justement, en parlant d'artistes locaux, en tout cas plus émergents, il y a vraiment cette volonté aussi du festival de les accompagner. Et si j'ai bien lu, vous ouvrez d'ailleurs la salle, en tout cas l'escapade, à d'autres artistes qui voudraient justement aussi un petit peu s'entraîner sur scène ou vraiment tester des chansons, des morceaux ou même un show sur scène dès le lundi de cette même semaine, c'est ça ?
Oui, alors c'est ça, c'est vrai que c'était pas forcément prévu au départ, mais dans les échanges avec la mairie, ils nous ont dit qu'on pouvait bénéficier de la salle dès le lundi. Alors en fait, ce sera dès le mardi, parce que le lundi, c'est le lundi de Pâques.
Ah oui, donc, ça tombe comme ça.
On l'avait pas pris en compte. Donc oui, en
dès
effet,
par contre,
ça sera des groupes qui seront présents au festival, qui vont bénéficier de la scène pour préparer leur show et s'entraîner, donc soit pour le festival, mais aussi pour leur tournée et les concerts qu'ils feront après. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre à disposition... des techniciens, de la technique et la salle pour eux. Quoi.
J'imagine que ça a été bien accueilli par ceux qui...
Ouais, ils sont très contents, en effet.
Qui pouvaient.
C'est des opportunités qui sont pas forcément évidentes à trouver, d'avoir une scène comme ça à dispo pour pouvoir faire ce qu'on appelle une résidence.
Donc là, pour ouais. le coup, ils seront fin prêts pour, oui. pour le week-end à suivre. Justement, maintenant, là, on a entendu tous les artistes, on voit un petit peu à quoi ça va ressembler. Si on a envie de prendre ses places, ses billets, comment est-ce qu'on peut faire ?
Alors, il faut aller sur le site timpisfestival.fr. Il y a un onglet billetterie. Ça va vous renvoyer vers une billetterie en ligne qui est gérée par Elo Asso, qui est un peu connue. Voilà, et vous allez pouvoir réserver vos places, soit une journée ou deux jours. Au choix, et vous pourrez aussi réserver la garderie, parce que la mairie, grâce à la mairie, on va proposer un service de garderie. Donc les places sont très limitées, il faut vraiment les réserver en avance si possible. Donc ça sera au moment de l'achat des places sur la billetterie. Donc un petit mot, nous, un des objectifs aussi hein, du festival et de l'association, c'est de faire un événement qui soit accessible, que ce soit par la programmation, la musique, mais qui soit aussi accessible par le prix. Donc on est à 16 euros la soirée et 25 euros les deux soirs en pré-vente. On pense que c'est quand même un bel effort qu'on essaye de faire à ce niveau-là.
Pour que le prix ne soit pas un frein en tout cas.
Voilà, c'est ça. Et on est éligible au IPAS Jeunes Pays de Loire. Donc pour les jeunes qui bénéficient de ce dispositif, ils pourront venir gratuitement, entre guillemets.
Avec ce pass-là. Voilà. Si peut-être dernière petite question, rappelez comment on fait si on a envie d'être bénévole, de vous aider de ce point de vue-là.
Alors l'adresse timpisfestival@gmail.com, vous nous contactez ou directement sur la messagerie des réseaux sociaux qui permet aussi de contacter directement et on guidera les personnes pour s'inscrire et les renseigner.
Évidemment, puisque ça va arriver assez vite, hein, là c'est dans 3 semaines.
C'est ça, dans 3 semaines.
Dans 3 semaines, donc les 22 et 23 avril à Argentré pour cette deuxième édition du Team Peace Festival. Merci beaucoup,
merci à vous pour l'invitation.
D'avoir été avec nous. Et on va justement poursuivre un petit peu cette découverte de la programmation du festival avec, on en parlait, Ryan qui fait partie des têtes d'affiche, qui est là en featuring avec Naman sur ce titre, Nous sommes le pouvoir. On écoute ça tout de suite.
Ryan, I am saying, descendons dans la rue avant qu'il soit vraiment trop tard. Nous sommes le pouvoir.
Reprenons notre plume, écrivons la fin de l'histoire.
Nous sommes le pouvoir.
Descendons dans la rue avant qu'il soit vraiment trop tard.
Nous sommes le pouvoir.
Reprenons notre dû, écrivons la fin de l'histoire.
Nous sommes le pouvoir à condition de le vouloir. Nous les déçus du système, nous nous comptons par milliards. Nous avons le devoir de reprendre à tous ces bavards nos si précieuses démocraties tristement vides et illusoires. Laisserons-nous nos dirigeants jouer le jeu de la finance, hypothéquant notre avenir sans une once de résistance. Qu'attendons-nous vraiment pour inverser la tendance? Combien de votes blancs faut-il pour exprimer notre impatience? Descendons dans la rue avant qu'il soit vraiment trop tard.
Nous sommes le pouvoir.
Reprenons notre plume, écrivons la fin de l'histoire.
Nous sommes le pouvoir.
Descendons dans la rue avant qu'il soit vraiment trop tard.
Nous sommes le pouvoir.
Reprenons notre dû, écrivons la fin de l'histoire. Tell me what am I gonna do when the thing busts. Fake news gonna reveal what it will cost. Who cares about running in the right place? Everybody knows. Let's spring for the winter, and so we let it enter. Cause we the people, we don't run for the power. Visionary reason in the control tower. Don't play the game of that big bag of wire. Selling the world for the dollar.
Descendons dans la rue avant qu'il soit vraiment trop tard.
Nous sommes le pouvoir.
Reprenons notre plume, écrivons la fin de l'histoire.
Nous sommes le pouvoir.
Descendons dans la rue avant qu'il soit vraiment trop tard.
Nous sommes le pouvoir.
Reprenons notre dû, écrivons la fin de l'histoire.
Nous sommes le pouvoir.
Descendons dans la rue avant qu'il soit vraiment trop tard.
Nous sommes le pouvoir.
Reprenons notre plume, écrivons la fin de l'histoire.
Nous sommes le pouvoir. Nous sommes le pouvoir.
Reprenons notre dû, écrivons la fin de l'histoire.
C'était Nous sommes le pouvoir, chanson de Rayon, qui sera donc en concert lors du Team Peace Festival le samedi 23 avril. C'est désormais l'heure de passer à notre chronique, un autre écho de l'écho proposé par Soizic. Bonjour Soizic.
Bonjour Marie.
Et on va parler aujourd'hui des cabinets conseils sur le grill.
Et oui, il ne vous a pas échappé que depuis quelques jours, la commission d'enquête du Sénat sur l'influence des cabinets de conseil sur les dépenses, sur les politiques publiques, accuse les entités françaises du cabinet McKinsey de n'avoir versé aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. Elle pointe également du doigt un doublement des dépenses pour les cabinets de consultants sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Ces dépenses atteignent en effet en 2021 la modique somme de 100 millions d'euros. Et il ne s'agirait pas que d'un pic de dépenses lié au Covid, mais d'une tendance exponentielle.
Dans quel secteur de nos politiques publiques est présent McKinsey ?
Eh bien, le cabinet conseil officie dans différents secteurs. Rien que pour ce qui est de la crise sanitaire, l'État lui a versé 12 millions d'euros. C'est-à-dire que les consultants de McKinsey se sont installés au cœur de Santé publique France et ont décidé comment organiser cette vaccination. Mais on retrouve également ce cabinet conseil dans de nombreux autres secteurs. L'économie, la défense, la santé donc, l'éducation, comme un marché de 18 millions d'euros qui a été récemment passé avec Bercy en 2021 pour mettre en place des coupes budgétaires. Et le même Bercy qui ne s'est pas rendu compte à ce moment-là que McKinsey ne payait pas ses impôts. C'est quand même ballot. Alors dans l'éducation par exemple, les sénateurs ont mis au jour un contrat de plus de 500 000 euros pour lequel McKinsey était chargé de réfléchir au métier d'enseignant de demain. Mais à ce sujet, il ne me semble pas que les enseignants aient jamais eu vent de la suite de l'enquête.
Et en dehors de la question de leur efficacité, ces contrats ne posent-ils pas également un problème de nature politique ?
Eh bien si, parce que Karim Tajeddine, responsable des marchés avec l'État au sein de McKinsey, est un vieux compagnon de route d'Emmanuel Macron. Il siégeait notamment ensemble à la commission Attali censée réformer la France. En 2016, Emmanuel Macron a préfacé son livre « L'État en mode start-up » déjà. Et en 2017, le fameux Karim Tajeddine participait activement à la campagne du futur président. Et c'est ce même Karim Tajeddine qui, devant la commission d'enquête du Sénat, était incapable de détailler le contenu de la note de réforme de l'éducation et affirmait que McKinsey payait ses impôts en France, ce qui d'ailleurs, selon les sénateurs, pourrait s'apparenter à un faux témoignage. Donc oui, le problème est évidemment politique et les liens étroits entre la macronie, excusez-moi, et McKinsey questionnent. Mais ceci dit, il n'y a pas que McKinsey, qui officie auprès de l'État. D'autres cabinets sont concernés, comme le Boston Consulting Group ou Accenture, qui est également très présent dans le secteur informatique.
Mais alors pourquoi un recours de plus en plus important aux cabinets de conseil ?
Alors d'après Alain Minc, qui est un des mentors d'Emmanuel Macron, je le cite parce que c'est quand même cocasse, Emmanuel Macron est l'idole des consultants, tout simplement parce qu'il est comme eux. Au ministère de l'économie, il les fait déjà rêver. Il s'habille comme eux, il pense comme eux, il connaît leur code, les fondements de leur métier. Et leur code et leur pensée, Marie, eh bien, c'est que ce sera toujours mieux dans le privé. Un préjugé qui nous dit que le privé est beaucoup plus efficace que le public. Comprenez, ils font mieux à moins cher. Alors d'autant qu'à force de réduire les coûts, cela crée des failles. Et pour pallier ces failles, on fait appel au cabinet de conseil. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du serpent. L'État paie deux fois les consultants privés pour lui faire faire des économies dans un premier temps, puis pour suppléer aux carences de ces mêmes consultants dans un second temps.
Mais sois-y que l'État pourrait assumer ses missions.
Mais oui, d'autant que les hauts fonctionnaires ont les mêmes profils que les consultants de ces cabinets de conseil et sont souvent issus des mêmes grandes écoles, l'ENA, HEC, l'ESSEC, etc. Et d'ailleurs, les allers-retours des uns aux autres sont assez fréquents. Et ça coûterait quand même moins cher que le coût moyen d'une journée de consultant estimé à 1 528 €, coût pouvant à même aller jusqu'à plus de 3 000 € par jour. Autrement dit, et comme le dit Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, je cite, « Il n'est pas absurde pour réformer l'État d'avoir un œil extérieur. Mais le lien entre le besoin et le montant devrait alors être regardé avec davantage d'attention. » Remonté contre les sommes astronomiques engagées et de possibles conflits d'intérêts, l'élu estime que le gouvernement, je cite encore, a été rattrapé par la patrouille. Or, d'après Baden-Powell, fondateur des scouts et des fameuses patrouilles, je cite à nouveau, on ignore souvent les qualités que l'on possède et le rôle de la patrouille est de faire découvrir à tout un chacun les qualités qu'il a en lui. Voilà en effet qui tombe à pic.
Merci beaucoup, Sois-y, pour cette nouvelle chronique, donc là sur les cabinets de conseil, chronique que vous pourrez retrouver sur notre site l'autreradio.fr. Et Sois-y, vous revenez dans 2 semaines, mercredi.
Alors, avec les vacances, ce sera
un petit
peu après.
C'est vrai, déjà les vacances scolaires, donc ça décale. Bon, on vous redira tout ça, évidemment. Mais vous allez évidemment bien revenir à ce micro pour une nouvelle
avec
chronique.
Avec grand plaisir, comme toujours.
Merci beaucoup, puisque c'est déjà la fin de notre émission L'AJT du local pour ce mercredi. Salut Andy.
Salut Marie, à demain.
Alors oui, le micro ouvert, c'est mieux. Hein. En tout cas, on se retrouve bien demain. Et puis la suite à l'antenne à 19h, il y aura Novorama. Et à 21h, d'Eclectic Jazz avec Anne Passeo. Nous, on se retrouve donc demain à 12h15. Je vous souhaite une très belle journée.